RFI, il est 1h à Paris, 16h à Las Vegas.
Juliette Pietraszewski.
Et à la une de ce journal à Las Vegas, après l'explosion d'une Tesla devant un hôtel de Donald Trump mercredi, le suspect retrouvé mort s'est probablement suicidé selon les autorités américaines. Ses motivations restent pour l'heure inconnues, les précisions dans un instant. En France, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, était en visite à Marseille hier. Il a expliqué vouloir taper au portefeuille des narcotrafiquants. En économie, la France a battu son record d'exportation d'électricité en 2024. Une rare bonne nouvelle sur laquelle on va revenir. Et puis la disparition de la doyenne mondiale des championnes olympiques. Agnès Skeletti avait obtenu 5 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Mais avant tout ça, en Corée du Sud, les enquêteurs sont entrés ce vendredi dans la résidence du président déchu, Yoon Suk-yeol. Ils veulent l'interroger en vertu d'un mandat d'arrêt sur sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Yoon Suk-yeol reste officiellement le chef de l'État et n'est que suspendu en attendant la confirmation par la Cour constitutionnelle. Hier jeudi à Séoul, des manifestations avaient eu lieu. Des centaines de Sud-Coréens se sont affrontés devant la résidence officielle du président déchu. Certains demandaient sa détention immédiate, d'autres appelés à le protéger face à la menace de son arrestation. Après l'explosion d'une Tesla à Las Vegas ce mercredi, on en sait plus sur le suspect. C'est un militaire aux motivations inconnues selon le FBI. L'homme a été tué dans l'explosion du Cybertruck. Les médias américains ont révélé son nom, Matthew Lievelsberger, 37 ans, un soldat américain en poste en Allemagne. On en parle avec Loïc Piala.
Matthew Lievelsberger est entré dans l'armée en 2006, membre des forces spéciales depuis près de 20 ans. Il était, selon la chaîne CBS, en poste à Kampenzer, près de Stuttgart, spécialisé dans la maintenance de drones. Une photo sur les réseaux sociaux le montre en tenue de camouflage armé, debout sur une motoneige. En permission, ce diplômé avec mention en études stratégiques et analyse de défense avait un logement à Colorado Springs, une heure au sud de Denver. Les médias américains rapportent que sa femme n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis plusieurs jours. C'est dans le Colorado qu'il a loué un Cybertruck avant de prendre la route de Las Vegas avec à bord des feux d'artifice et des jerrycans d'essence. Une location réalisée via Turo, un site qui connecte des particuliers, la même plateforme que le terroriste présumé de la Nouvelle-Orléans pour louer son pick-up. Les deux suspects auraient également servi en Afghanistan en même temps, à la fin des années 2000, mais il y avait 100 000 militaires sur place à l'époque. Hier, Joe Biden a demandé à ne pas tirer de conclusions hâtives sur un éventuel lien entre les deux hommes. Loïc Piala, San Francisco, RFI.
Toujours aux États-Unis, donc à la Nouvelle-Orléans, une autre attaque a coûté la vie à 15 personnes mercredi. Le FBI assure que l'auteur a agi seul en lançant son pick-up sur la foule du Nouvel An. L'accusé est un ancien militaire américain. Il avait notamment été déployé en Afghanistan. L'homme a rejoint le groupe État islamique et s'était radicalisé ces dernières années, selon ses proches. Il est mort dans des échanges de tirs avec la police dans la nuit du 31 décembre.
RFI.
L'actualité internationale continue. En Syrie, les forces de sécurité ont lancé ce jeudi une opération de ratissage à Homs, une ville située dans le centre du pays. Des quartiers de la minorité alaouite, dont est issu le clan de Bachar el-Assad, le président déchu, ont été particulièrement touchés, selon une ONG. L'opération vise des criminels de guerre et des personnes impliquées dans des crimes qui ont refusé de remettre leurs armes, selon les déclarations d'un responsable de sécurité auprès d'agences officielles syriennes. En Côte d'Ivoire, le camp du 43e bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué sera rétrocédé à l'armée ivoirienne ce mois-ci, comme l'a officialisé le président Alassane Ouattara lors de ses vœux du Nouvel An. Le départ annoncé des soldats français d'Abidjan suscite le désarroi des commerçants aux alentours, notamment au village artisanal 43e Bima, où s'est rendu notre correspondant Benoît Almeras.
Assis à l'ombre sous l'acacia de la place des colonels, Gaucher est encore chaos depuis l'annonce de la rétrocession.
Quand le président il a annoncé, moi et madame on s'est regardé et après je lui ai dit bah là c'est mort pour nous. Hein. L'année 2025 ça commence très très mal pour nous.
Ce vendeur de souvenirs vit du commerce avec les soldats français comme ses 150 voisins, couturiers, réparateurs de vélos, maraîchers, coiffeurs, gérants de maquis. Tous témoignent de signes avant-coureurs, moins de clients, une activité au ralenti depuis un an. Mais même prévisible, le changement à venir est mal vécu.
Ça ne sera pas la même clientèle.
Nadia a 35 ans, elle tient un restaurant, c'est la chef des commerçants du village. Elle ne sait pas si elle va rester.
Vendre, avoir un acheteur, ça sera difficile. Et rester là aussi, ne pas avoir de clients, c'est encore plus mauvais. Donc là, on va essayer de réfléchir.
Kébé a connu l'âge d'or du village. Après 35 ans sur place, lui est fataliste.
C'est une décision que le président de la République a prise. Donc nous, on n'a fait que soumettre à cette décision. Comme disait l'autre, avant le Biman, on vivait. Donc après le Biman aussi, on va vivre.
Environ 500 militaires français sont encore stationnés à Port-Boué. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
En France, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur, était en visite à Marseille ce jeudi. Il a notamment fait des annonces sur la lutte contre la criminalité organisée et le narcotrafic. Après une visite au palais de justice, il était dans des locaux de la protection judiciaire de la jeunesse, puis à la tristement célèbre prison des Baumettes. Le garde des Sceaux a martelé vouloir être ferme contre le narco-banditisme, Léopold Picot.
Oui, déjà, Gérald Darmanin a évoqué la corruption de certains agents de l'État, comme ces gardiens de prison dont les familles sont menacées, obligées de faire passer des téléphones, des messages en cellule.
Et nous allons alourdir, en tout cas c'est ce que je souhaite, alourdir les peines contre ceux qui menacent, corrompent les agents de l'État.
Pour alléger la pression, Gérald Darmanin souhaite recruter 1600 personnels de justice de plus cette année. Il aimerait également faire appliquer les peines ordonnées.
Lorsqu'on dit que l'on condamne quelqu'un à de la prison, il faut qu'il en fasse de la prison. Et il y a trop de peines de prison qui sont prononcées, qui ne sont pas exécutées et dont jamais la personne ne va une journée en prison.
À Marseille, les règlements de compte mortels entre narcotrafiquants ont été réduits de moitié entre 2023 et 2024. Pour accentuer cette tendance, Gérald Darmanin évoque de nouveau une forme d'isolement pour les individus les plus dangereux en prison.
Personne ne comprend derrière son écran de télévision en lisant son journal que ces personnes peuvent communiquer à l'extérieur. Commander des assassinats, corrompre des fonctionnaires ou pouvoir faire continuer leur point de deal.
L'an dernier, 40 000 téléphones portables ont été confisqués dans les prisons françaises. Le ministre de la Justice aimerait obtenir 500 millions d'euros supplémentaires pour installer des brouilleurs d'ondes dans les prisons. Léopold Picot, Marseille, RFI.
Et pour faire appliquer les peines d'emprisonnement, encore faut-il avoir les capacités. On apprenait ce mercredi qu'il y avait plus de 80 000 prisonniers français pour environ 60 000 places en prison. Économie à présent en France, les bonnes nouvelles sont rares en ce moment, mais à noter quand même, le pays a battu son record d'exportation d'électricité en 2024, avec 89 TWh exportés vers les voisins européens. C'est en majorité l'Allemagne et le Royaume-Uni qui en ont profité, un succès dû en partie à une électricité parmi les moins chères du continent européen, Anne Verdaguy.
La reprise de la production du parc nucléaire français l'an passé a donné un coup de pouce à l'exportation d'une électricité devenue très attractive. Le raccordement au réseau de l'EPR de Flamanville en décembre permettra de confirmer cette tendance dans les prochains mois. Une électricité française bas carbone, abondante ou presque, mais surtout peu chère et très compétitive sur les marchés européens. Le prix du kilowattheure est 7 fois moins élevé qu'en 2022 lors de la crise énergétique européenne et les Français payent aujourd'hui leur électricité en moyenne 20% moins cher que les Allemands. L'Allemagne, qui est d'ailleurs la première importatrice de l'électricité française, avec la Belgique, viennent ensuite l'Italie, le Royaume-Uni et la Suisse. Dans la balance commerciale, ces exportations apportent un bol d'air bienvenu. Les bénéfices se comptent en milliards d'euros pour l'Hexagone, mais ils sont très loin de compenser les coûts de l'importation de gaz et de pétrole, qui représentent, selon les derniers chiffres de 2023, 74 milliards d'euros de dépenses par an, une somme colossale au regard des 4 milliards d'euros de gains pour les exportations d'électricité.
Et puis la disparition de la doyenne mondiale des championnes olympiques. Agnès Skeletti, gymnaste hongroise de renommée, s'est éteinte aujourd'hui à Budapest à 103 ans. Elle avait obtenu 5 médailles d'or au JO. On en parle avec Florence Labrouillère.
Agnès Skeletti a eu une vie peu commune. Née en 1921, la gymnaste entre dans l'équipe nationale de Hongrie en 1939, mais elle est exclue des compétitions sportives en raison de ses origines juives. En 1944, son père et plusieurs membres de sa famille sont exterminés à Auschwitz. Mais Agnès Skeletti échappe de peu à la déportation. Elle obtient de faux documents en échange de tous ses biens. Elle se cache à la campagne où elle travaille comme domestique et s'entraîne en secret. Après la guerre, le régime communiste s'installe en Hongrie. Skeletti reprend sa carrière de championne de gymnastique. Aux Jeux Olympiques d'Helsinki en 1952, elle rafle 5 médailles d'or, puis une 6e aux Jeux de Melbourne en 1956. Au total, cette femme de grande taille, au sourire légendaire, a remporté 10 médailles olympiques. « J'ai fait du sport, non pas parce que cela me faisait du bien, mais pour voir le monde », disait-elle. Comme beaucoup d'athlètes hongrois, Agnès Skeletti n'était pas rentrée en Hongrie après les Jeux Olympiques de Melbourne en 1956. Elle s'était installée en Israël, où elle avait entraîné l'équipe de gymnastique, avant de revenir définitivement en Hongrie en 2015. Florence Labrouillère, Budapest, RFI.